Ces 10 dernières années, la population catholique en Islande a triplé. Nous avions, il y a 10 ans, environ 3 000 catholiques dans tout le pays. Maintenant, ça a dépassé le cap des 10 000, en tout cas des catholiques officiellement enregistrés. Ça veut dire que cette population catholique est grandissante. Pour vous donner qu'un seul exemple, nous avons 10 fois plus de baptêmes que d'enterrements. Ça provient essentiellement, bien sûr, de la natalité parmi les catholiques, mais aussi du fait de l'immigration et également de la conversion d'un certain nombre de luthériens qui entrent dans la pleine communion de l'Église catholique. Nous avons chaque année un petit groupe qui fait ce passage. Donc, une communauté grandissante et surtout une communauté très jeune, parce que la plupart des catholiques ici en Islande proviennent de la Pologne et ce sont de jeunes travailleurs qui viennent ici pour travailler dans la pêche maritime et aussi dans le tourisme. Nous avons également beaucoup de catholiques en provenance des Philippines. Ça veut dire que la grande majorité de la population catholique est d'origine étrangère.
Beaucoup d'étrangers, aussi des Islandais de souche. Est-ce qu'ils vivent tous près de vous, près de Reykjavik, ou est-ce qu'ils sont étalés vraiment partout sur le territoire?
C'est vrai que la grande majorité, 70%, sont situés dans l'agglomération de Reykjavik. Mais parce que nous avons des catholiques qui sont disséminés tout le long de la côte, cela nous complique bien sûr les choses. Ce sont des villages, des agglomérations de pêcheurs. Et là, nous avons à les rencontrer, à aller auprès d'eux. Je vais aller ces prochains jours justement à l'ouest du pays, à Ísafjörður. Pour s'y rendre, il faut au minimum 6 à 7 heures de voiture. On a la même chose dans l'est de l'île, une paroisse, la paroisse de Saint-Orlac, qui s'étend sur plus de 600 kilomètres, mais avec une population de seulement 600 catholiques. Ça veut dire donc un catholique par kilomètre, voyez-vous.
Mais est-ce qu'il y a assez de prêtres, justement, pour cette pastorale un peu particulière?
Nous avons actuellement, pour nos 10 000 catholiques, 16 prêtres, ce qui semble énorme. Mais lorsqu'on tient compte du fait qu'ils doivent parcourir des distances énormes qui prennent beaucoup de temps, on peut mieux comprendre la nécessité d'avoir un nombre de prêtres suffisant. D'autre part, nous avons aussi la situation suivante des différentes langues. Par exemple, pour les Polonais, nous n'avons que 3 prêtres, mais 3 prêtres pour la grande majorité de la population catholique en Islande, ce n'est pas suffisant. D'autre part, ils sont engagés aussi dans la problématique linguistique. Nous avons beaucoup de textes à traduire. Par exemple, les documents qui nous parviennent de Rome, il est pour nous impossible de tous les traduire. Mais lorsqu'il s'agit de traduire une encyclique ou une exhortation apostolique, qui est-ce qui peut le faire? Ce sont pratiquement les prêtres, parce que c'est eux qui ont la formation théologique, spirituelle et liturgique.
Il y a une vitalité propre à la minorité. Est-ce que c'est ce que vous ressentez, vous aussi? Est-ce que les gens sont fiers d'être catholiques?
Les gens qui sont ici, tout spécialement, bien sûr, les Polonais qui sont les plus nombreux, ont cette conscience-là. Ils sont très jeunes et participent très, très volontiers à la messe dominicale. Cette pratique-là est pour les luthériens ici un grand témoignage. Nos frères luthériens ici en Islande sont très peu pratiquants en ce qui concerne la scène dominicale. Nous avons beaucoup de témoignages de luthériens qui disent « Mais c'est extraordinaire, comment est-ce que vous faites? Comment est-ce que c'est possible ?» Voilà pourquoi aussi nous avons chaque année un groupe de luthériens qui entrent dans la pleine communion de l'Église catholique. Donc ce témoignage porte des fruits d'une manière ou d'une autre. La minorité ne se veut pas une minorité militante, mais elle doit être missionnaire et donner le témoignage de sa foi dans le concret de la vie et aussi en ce qui concerne bien sûr la pratique religieuse.
Est-ce que quand même votre voix, justement au niveau des questions de société, est entendue sur la scène publique?
Nous sommes minoritaires puisque la population catholique fait actuellement 3,3% de la population totale, ce qui est vraiment extrêmement minoritaire. Ce qui veut dire que pour se faire entendre, il n'est pas du tout évident de du chemin dans ce sens-là. Il s'agit d'un témoignage humble mais efficace. Nous sommes en quelque sorte, c'est vrai, le levain dans la pâte. Un des grands défis pour l'Église catholique en Islande, c'est précisément d'être davantage présente sur la scène politique, puisque malheureusement, actuellement, nous n'avons aucun catholique qui est membre du Parlement. Mais avec 3,3%, c'est très difficile. De plus, il faut dire que dans ce 3,3%, certainement plus que la moitié n'ont pas le droit de vote et d'élection qui est réservé à ceux qui sont islandais.
Donc ils ne sont pas vraiment représentés sur la scène publique. Est-ce qu'il existe comme ça d'autres problématiques pour les catholiques islandais ?
Personnellement, quand j'étais en Suisse et qu'on parlait de territoire de mission, évidemment, c'est l'Afrique, c'est l'Amérique du Sud, c'est l'Asie qui entre en scène. Mais jamais je ne m'étais imaginé que dans les pays nordiques, qui sont vus de l'extérieur comme étant des pays très riches, il serait aussi difficile d'agir pour les membres de l'Église catholique, parce que c'est vrai que dans ces pays riches, ils sont, eux, une population minoritaire et souvent pauvre, puisqu'il s'agit d'immigrés qui viennent travailler ici pour gagner leur vie. Et ainsi, il est difficile quelquefois de se faire entendre à l'extérieur lorsque surtout il s'agit de trouver des aides financières. On dit « Ah, mais non, ça va pas pour les pays nordiques. Nous avons à nous occuper du Sud », ce qui est totalement juste et vrai. Mais lorsqu'on connaît mieux cette réalité des catholiques dans les pays nordiques, on peut et on devrait changer d'avis et se rendre compte que ces régions ont besoin non seulement de l'aide spirituelle, mais aussi de l'aide matérielle de